Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, très bonne année féministe sur Radio B. Et bonjour à mes camarades, Natacha.
Bonjour.
Michel.
Bonjour.
Et Joël.
Bonjour. Oui, une bonne année à vous, une bonne année féministe, comme tu dis Élodie, une année qui va dans le sens de l'égalité des droits, pour toutes, celles qui sont ici et puis celles aussi plus loin dans le monde. Beatrix Campbell, dans « Patriarcat de la planète », c'est son dernier livre, écrit « On pourrait penser que partout dans le monde, les droits des femmes sont en train d'être bafoués. Mais en faisant des recherches pour notre livre, Mariam Aldossari et moi-même, nous avons découvert que la résistance des femmes éclatait comme des pousses vertes à travers les fissures. » Ça donne vraiment envie de lire ce livre. Quel bel espoir en ce début d'année. Notre sujet aujourd'hui, les femmes en politique. La politique, pas celle qui permet d'accéder par tous les moyens au pouvoir et à la domination. Non, la politique, ce qui est relatif à la cité, à la chose publique, à l'organisation du pouvoir.
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B. Alors moi, ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dans un manuel d'histoire, mais dans mes souvenirs, il n'était pas bien rempli de noms de femmes. D'ailleurs, quand on parle de la Révolution française, la période pour parler de la France hein, en histoire, on connaît des personnalités masculines, les philosophes des Lumières par exemple. Eh bien, vous allez être surpris et surprise, enfin plus tant que ça, hein, si vous avez l'habitude de nous écouter, mais l'historienne Ludivine Bantini, dans son essai « Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe », revient sur cette idée reçue. Elle nous explique l'importance des femmes, par exemple, dans la Révolution de 1789.
Les femmes sont au contraire vraiment très très présentes dans le mouvement révolutionnaire, même si elles sont à un moment, oui, réprimées dans leur lutte, dans leur mobilisation en tant que femmes, dans leurs réunions de sections de femmes, de clubs de femmes, les assemblées. Elles vont finir même par être interdites de participer justement à des réunions publiques ou à des assemblées. Mais elles, ça ne les empêche pas d'être très présentes. Souvent, elles se revendiquent comme citoyennes, ces femmes. Quand bien même elles ne revendiqueraient pas forcément le droit de vote, hein, certaines le font, certaines revendiquent le droit de vote, mais pour elles, la citoyenneté, ça va vraiment au-delà de cette question du vote, c'est justement le fait de pouvoir se réunir, de pouvoir délibérer, de pouvoir décider, de conquérir des droits, de manifester justement dans la rue, d'aller signer, même quand elles ne savent ni lire ni écrire. Après, il y a toujours des moyens solidaires et collectifs pour se débrouiller et contourner l'analphabétisme. Mais voilà, signer des tribunes, des pétitions, aller les porter aux assemblées, à l'Assemblée constituante, participer bien sûr à la rédaction de cahiers de doléances. Et certaines aussi, par exemple, revendiquent de porter les armes en guise d'autodéfense populaire et révolutionnaire. Et pour elles, ça fait partie de l'égalité et de l'action citoyenne vraiment très concrète. En fait, les femmes, elles ont été très présentes dès le moment de la prise de la Bastille, hein, et certaines y ont laissé leur vie, là aussi, hein, certaines sont mortes lors de la prise de la Bastille. Mais il y a d'emblée aussi cet événement incroyable et assez inaugural de la Révolution française, qui est la marche des femmes des 5 et 6 octobre 1789. Donc ça, c'est vraiment des femmes des catégories très, très populaires, des marchandes en particulier, qui vont chercher le roi et sa famille à Versailles. Et donc, elles articulent à chaque fois, et ça, c'est ce qui m'a intéressée dans tout le livre, une dimension très sociale. Elles revendiquent de la justice sociale. Elles revendiquent des conditions matérielles de possibilité d'une véritable justice et de véritable égalité. Et puis, d'un autre côté, du coup, c'est aussi très politique. Donc, quand elles vont chercher le roi et qu'elles le ramènent à Paris pour le placer, en quelque sorte, sous le contrôle populaire, elles mêlent bien les deux dimensions sociales et politiques. Et elles se revendiquent vraiment comme citoyennes.
Alors Michel, un petit rappel des dates clés pour l'arrivée des femmes en politique.
L'histoire des femmes, des droits des femmes, tant politiques que sociétaux, a été un long combat, comme on sait. Pendant des siècles, les femmes étaient exclues de la vie politique, considérées comme des incapables juridiques. Les luttes ont permis une évolution concernant le statut civil, l'autonomie financière, le droit au travail et le droit à disposer de son corps. On peut citer quelques dates clés en France. 1791, bien sûr, la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne par Olympe de Gouges. Rappelons qu'elle a été guillotinée en 1793. Fin du 19e, début 20e, le mouvement des suffragettes pour le droit de vote et d'éligibilité. Puisque nous approchons des élections municipales et que c'est le sujet de notre émission, rappelons là aussi quelques étapes. En 1925, c'est le Parti communiste qui présente des femmes sur des listes aux élections municipales et Joséphine Pancalet est élue conseillère municipale à Douarnenez. En 1936, le Front populaire nomme des femmes au gouvernement. Elles ne sont pas élues, hein, elles sont nommées. Cécile Brunswick et Irène Joliot-Curie sont nommées sous-secrétaires d'État avant même que les Françaises ne soient électrices ou éligibles. 1944, l'ordonnance du 21 avril 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et d'être élues. En 1945, le 29 avril 1945, pour les élections municipales, les femmes participent au processus électoral. Il y a environ 250 femmes qui sont élues maires en 1945.
Et du coup, ça continue d'évoluer ?
Oui. Dans les années 70, lente augmentation de la présence féminine dans les conseils municipaux. En 2000, c'est la loi sur la parité, la loi relative à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives est adoptée. Elle impose l'alternance obligatoire d'un homme et d'une femme sur les listes électorales pour les communes de 1000 habitants et plus, mais pas pour les mairies directement. Conséquence de la loi, cette loi a entraîné une forte progression de la part des femmes dans les conseils municipaux. La parité est presque atteinte dans les conseils des communes de 1000 habitants et plus. En revanche, les femmes représentent encore une minorité au poste de maire. En 2008, il y avait 13,9% de femmes maires. En 2014, 16%. Et en 2020, c'est environ 19,8% de femmes maires. Mais les conseillères municipales s'occupent encore très largement de la culture, de la petite enfance et autres spécialités réputées féminines.
Et en mai 2025, il y a une nouvelle loi qui est votée. Elle impose la parité pour les listes municipales pour les communes de moins de 1000 habitants. Et c'est là qu'on se rend compte d'un problème. Il faut aller aussi mobiliser des femmes dans les petits villages. J'ai échangé avec deux maires hommes pour avoir leur point de vue sur cette obligation et sur la constitution de leur liste. Jean-Yves Brevet est le maire de Montrevel-en-Bresse. La commune dépasse largement les 1000 habitants. Il a donc monté une liste paritaire dès son entrée en politique.
Cette question de la parité est importante et n'est pas si anodine que ça dans une préparation de liste et surtout au niveau des communes rurales. C'est plus difficile parce que peut-être que les femmes, enfin c'est même quasiment certain, elles réfléchissent un peu plus longtemps avant de répondre oui sur une proposition. Alors bien sûr, les hommes, par moments aussi, vont répondre non rapidement, mais je veux dire par là que la réponse est souvent oui, ça m'intéresse, que ce soit homme ou femme, ça m'intéresse, mais après, c'est qu'est-ce que ça implique ? Je pense que les femmes sont un peu plus dans cette projection, et donc veulent savoir de quoi ils retournent exactement dans les engagements qui seront demandés.
Même configuration à Marsonna pour Guy Antoinet. En 2014, la commune compte 1001 habitants. Il faut donc constituer une liste paritaire.
Alors comment ça s'est passé ? Ça s'est pas trop mal passé parce que les quelques dames que l'on a recherchées ne nous sont pas envoyées balader. Elles ont été très intéressées et on n'a pas reçu de refus. J'ai été fort surpris. Il y avait les enfants qui étaient à l'école pour certaines dames. D'autres qui disaient on connaît pas bien le fonctionnement de la commune. Le fonctionnement un peu des institutions, mais c'est aussi des remarques qu'on avait de certains hommes aussi lorsque on partait à la recherche. Et puis c'est toujours des dames qui ont un rapport avec une association. Soit elles faisaient partie d'associations, soit leurs conjoints étaient dans des associations. Et ça permettait d'avoir un lien avec la collectivité.
Des femmes déjà engagées, c'est intéressant ça. Malgré les fluctuations de population, Guy Antoinet a gardé la logique de la parité pour la constitution de ses listes et ça a marché. À Morvelle-en-Bresse, Jean-Yves Brevet se représente pour les élections 2026. Lors des échanges avec les femmes qu'il a souhaité mobiliser, il n'a pas vu de changement par rapport aux dernières municipales. Pourtant, il pense que les femmes apportent des choses différentes dans une équipe municipale.
Elles sont moteurs dans des dossiers importants au niveau de la strate communale, l'action sociale. Il y a aussi les questions en lien avec l'associatif en général, et puis les questions avec le cadre de vie, tous les thèmes du cadre de vie, de l'embellissement d'une commune, tous ces thèmes-là sont majeurs pour les femmes.
Du côté de Marcenat, pardon, voici ce que Guy Antoinet a observé.
Le changement de vision sur des présentations de dossiers, je pense qu'on est un peu moins technique et on sera plus à l'utilisation. L'utilisation des différents investissements qu'on fera, que ce soit dans l'école, dans les aménagements extérieurs. Je trouve qu'au niveau du sexe féminin, il y a plus d'attention. Disons qu'elles sont un peu moins techniques. C'est plus l'utilisation, le ressenti de la vision du projet, de ce qu'on peut voir. De ce qu'on peut voir du projet. Et par rapport à un homme, on sent quand même, je pense, les hommes vis-à-vis de leur, dans les conseils, certains hommes élus considèrent pas l'avis d'une dame comme ils devraient le prendre certaines fois. Il y a toujours un peu de sexisme, comme quoi elles savent pas que les dames ne savent pas tout.
Petit travail de formation à la mixité pour les élus, messieurs. Hein, d'ailleurs, j'interpelle Jean-Yves Brevet sur le fait que les femmes dans les équipes sont souvent cantonnées aux affaires sociales, scolaires, comme si c'était associé à leur genre, ces postes.
La question sociale, la question éducative, la question, enfin, même plus qu'éducative, l'accompagnement de l'enfant en général, la question du cadre de vie, on voit que dans la majeure partie des cas, ce sont les thèmes qui intéressent les femmes, donc ça rejoint finalement les besoins au niveau local. C'est peut-être différent quand on atteint le niveau intercommunal. Au niveau intercommunal, il y aura des thèmes très techniques en lien avec l'assainissement, eau, la question de la collecte des ordures ménagères, la question beaucoup de questions techniques qui, souvent a priori, sont plus... pas plus intéressantes, mais sont plus abordées par les hommes. Mais justement, au niveau intercommunal, là, il y a un manque, puisque il n'y a pas d'obligation de parité au niveau des instances décisionnelles, que ce soit surtout le bureau communautaire.
Eh bien, encore un peu de formation à un plus haut niveau encore. Alors, être maire, c'est pas rien. Hein. Et finalement, si les femmes avaient plus de compétences pour cette mission, Guy Antoinet, le maire de Marsonnat, me partage sa réflexion personnelle à ce sujet.
Je leur dirais qu'elles apportent plus qu'un homme dans un conseil. Voilà. Ben, peut-être qu'on écoute mieux une dame. Okay. Moi, je le prends comme ça. C'est peut-être plus direct. Pour la tête de la liste, je pense qu'une dame fait aussi bien qu'un homme, sinon mieux. tout simplement parce que la façon de manager, c'est pas du tout... je l'ai ressenti de 2001 à 2008, lorsque la seule dame qui a été maire sur la commune de Marcenin, Michèle Roux, a donné une image différente des autres maires. Elle n'avait pas du tout la même façon de gérer, de manager les équipes.
Et de son côté, que dirait Jean-Yves Brevet, le maire actuel de Morvan-en-Bresse, à une femme pour qu'elle s'engage ?
J'insisterai sur la question du cadre de vie. Le cadre de vie parle à tout le monde, mais les détails qu'il reste à améliorer, il y a souvent des réponses, enfin des vues pertinentes de la part des femmes, en lien peut-être avec parfois même bien sûr un trottoir de la voirie, des questions de circulation, de sécurité, des questions de mobilité piétonne ou cyclable.
Comme si les femmes étaient un peu plus attentives à ce qui les entoure ?
Oui, sans doute. Sans doute un peu plus attentive et peut-être aussi un peu plus impliquée. Les démarches du quotidien sont souvent assumées par elles, que ce soit dans les commerces, les services, et c'est difficile à estimer, mais je pense que c'est la réalité.
Eh bien voilà, la boucle est bouclée. Mesdames, la place elle est là, vous la méritez.
Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant, dès lors que nos cœurs se serrent. Brésil,
elles sont aussi en studio avec nous, ces femmes. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous êtes candidate au municipal à Marcenin.
Oui. Et bonjour Christine.
Bonjour.
Vous êtes élue au sein d'une commune rurale dans l'Ain, alors une commune de moins de 1000 habitants, depuis 2020. Donc moins de 1000 habitants, c'est une commune qui est donc jusqu'ici pas concernée par les lois de parité sur les listes. Merci d'être en studio avec nous. Christine, qu'est-ce qui a motivé votre choix de vous lancer, vous, il y a 6 ans, en 2020 ?
J'ai pas l'impression de m'être lancée, c'est plutôt la politique qui est venue à moi, puisque la commune sur laquelle j'habite a monté une liste, du coup, il y a 6 ans, et il y avait eu une femme qui était maire quelques mandats précédents, et ils avaient la volonté d'avoir cette parité qui n'était pas obligatoire. Et donc, quand ils ont monté cette liste un petit peu en urgence il y a 6 ans, ils sont allés chercher des femmes pour compléter leur liste. Je sais que ça n'a pas été simple de trouver ces 7 femmes. Et puisque voilà, s'ils sont venus me chercher, c'est qu'il manquait vraiment, vraiment du monde pour boucler leur liste. Nous, ça faisait 1 an et demi qu'on habitait sur la commune, ce qui posait pour moi des questions un petit peu de légitimité, de savoir, ben voilà, est-ce que mon avis compte, est-ce que comment je vais intégrer ce conseil en étant habitante depuis si peu de temps. Et au contraire, on m'a dit que ça pouvait être un avantage, justement, cette distance avec les histoires de la cité, du village dans lequel j'habite. Donc ça pouvait être au contraire quelque chose qui est mis en avant et un avis différent du coup des autres.
On l'entendait tout à l'heure, un maire disait que les femmes hésitaient plus à dire oui, donc vous avez aussi, vous, plus hésité.
Oui, ben j'ai dû prendre en compte tout ce qui faisait ma vie à cette époque-là. J'avais un petit garçon qui avait 3 ans à l'époque. En plus, on était en plein Covid. Il y a 6 ans, on était en plein Covid. Du coup, on était dans une période où on était beaucoup les uns sur les autres. Il fallait se dire comment je vais gérer mon quotidien, ces multiples bagages de charge mentale qu'on a les unes les autres, et comment je vais faire rentrer ce projet dans ma vie, sachant que moi je trouve que dans un village comme le nôtre, le conseil municipal, être élu au conseil, c'est surtout une question de quotidien. On est vraiment des gens de terrain et je trouve que c'est moins politique finalement que ce à quoi je m'attendais. On est vraiment sur des questions, comment faire fonctionner l'école, la cantine, la voirie, les routes à refaire, enfin, des dossiers comme ça, tenir des devis, rencontrer des artisans, enfin, c'est plein de petites choses vraiment très, très liées au quotidien.
Et très technique, finalement.
Oui.
Par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure.
Plus ou moins technique, en fait, mais pour moi, c'est pas tellement une question de genre. On est capable de s'approprier les sujets, comme n'importe quel sujet, homme ou femme, qui sont présents au conseil municipal. Après, c'est plutôt une question d'habitude, je trouve. Où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va choisir et comment on va arbitrer tout ça.
Ouais. Et quel bilan, du coup, vous faites? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu votre expérience pendant ces 6 années.
C'était plus dense que ce à quoi je m'attendais. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup de choses du quotidien. On oublie de parler. Quand on est venu me voir, on m'a dit, tu verras, c'est 2 réunions par mois, plus les commissions. Je me doutais que ce serait un petit peu plus que ça. Il faut être là aux cérémonies, il faut préparer les cérémonies. Donc, c'est au moins 3 dates par an. Il faut être là aussi pour les élections. C'est souvent 2 dimanches de suite. Et puis, comme j'ai dit, il faut porter un petit peu les dossiers. Faut au minimum être au courant et puis après impulser des choses, monter des projets, etc. Moi, j'ai pu m'engager parce que j'ai la chance d'être à temps partiel et que, du coup, j'ai pu consacrer un petit peu de temps sans être frustrée. Je sais que certaines de mes camarades élus sont frustrées de ne pas avoir plus de temps à consacrer à tous ces sujets-là. Après, j'ai vu aussi 2 femmes démissionner de l'équipe, une adjointe et une élue au bout de 2 ans, parce que justement, c'était impossible pour elle de tout concilier.
Ouais. Ouais. Au sein de l'équipe municipale, comment la répartition des tâches se fait? Est-ce que c'est selon des affinités genrées, imaginées? Enfin, comment ça se passe?
Je pense qu'on est effectivement encore un petit peu dans les habitudes, comme j'ai dit tout à l'heure, et les clichés. Où on va avoir plus d'hommes qui vont être sur les problématiques liées au bâtiment, à la voirie. Et les femmes vont être effectivement plus présentes sur la petite enfance et sur le social. On est plus de femmes aussi au CCAS, sur l'action sociale. Après, ça se déconstruit petit à petit quand même. Je vois, on a quand même une femme à la voirie. Moi, j'ai appris à maîtriser un petit peu tout ce vocabulaire de la route, de l'urbanisme. Et je vois que c'est possible. Après, moi, j'ai eu la chance d'être dans une équipe où il y a eu beaucoup d'intelligence collective, où chacun a pu trouver une place qui lui allait bien. Sauf ces 2 personnes qui ont dû démissionner. Mais sinon, on avait vraiment un groupe qui fonctionne très bien.
Ouais, on voit que se lancer en politique, pour une femme, c'est pas forcément hyper, hyper simple et hyper évident. D'ailleurs, au niveau de l'État, on essaye de travailler là-dessus.
Oui, nous avons contacté Cécile Grosjean, qui est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, et qui a organisé il y a quelques semaines des actions autour de la parité femmes-hommes en politique, en amont des élections municipales, justement. Ces actions prennent place dans un axe de travail plus large que je porte, dit-elle, depuis 2 ans environ, sur la parité femmes-hommes, dans tous les espaces de décision politique et économique. Ce sont 4 séances d'une demi-journée dans 4 communes du département de l'Ain, y ont participé des femmes de milieux très différents. Le but, c'était éclaircir le rôle et la fonction d'une conseillère municipale, travailler sur ce qui pourrait freiner les femmes à prendre des responsabilités responsabilités au sein de la commune. Hein, vous en avez déjà parlé, de cette charge mentale importante. Ces journées ont été réalisées en partenariat avec deux associations, Regards de Femmes et Elles aussi, et qui a édité justement le guide de la candidate qui était distribué lors de ces rencontres.
Et Aurélie Brunel se présente à Châtillon-sur-Chalaronne. Elle a participé à l'une de ses formations. Nous lui avons demandé ce qu'elle était venue chercher en s'inscrivant à ce stage.
Eh bien, au départ, surtout rencontrer d'autres femmes élues ou qui souhaitaient le devenir. On n'avait pas une attente très particulière, ça faisait partie des choses qu'on a échangées au départ et chacune ne venait pas forcément pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, ouais, déjà commencer à rencontrer d'autres femmes, partager l'expérience. On savait que serait présente Madame la préfète et également Madame la sénatrice de notre secteur. Donc c'était important pour nous de rencontrer ces femmes-là qui ont déjà des responsabilités importantes, y compris au niveau national, et qu'elles nous expliquent comment elles vivaient ce type de mandat, comment elles en étaient arrivées là, et comment elles géraient ces mandats déjà actuellement, quoi. Un des autres points aussi, c'était qu'on savait qu'il y aurait donc d'autres femmes qui seraient un peu dans nos situations, dans d'autres villages. Et ça nous semblait important de peut-être commencer à faire un peu de réseau, quelque part, de se dire que certains sujets pouvaient être assez transversaux d'un village à l'autre et assez communs. Et on a déjà eu des discussions avec certaines élues pendant la formation sur des sujets qu'elles avaient déjà mis en place dans leur village et où on s'est dit qu'on se rappellerait après la formation, qu'on garderait le contact pour bénéficier de cette expérience-là. Et je crois que c'était aussi un élément dont on a parlé pendant la formation, que les hommes en politique qui sont là depuis longtemps, ils ont un réseau. Et les femmes, elles ont aussi besoin d'alimenter, de renforcer ce réseau-là qui peut être le même que ces messieurs, mais peut-être aussi différent, avec d'autres angles d'attaque ou d'autres points de vue, et que c'était aussi important.
Et nous l'avons ensuite interrogée sur ce qu'elle avait retenu de la formation.
Un des points principaux, c'est vraiment qu'il fallait qu'on arrête de se poser la question de notre légitimité ou de nos compétences. C'est revenu très souvent dans la bouche des participantes. Mais oui, mais moi, je n'ai jamais fait et je ne suis pas une experte plus de tel sujet. Et donc, les femmes d'expérience qui étaient autour de la table, qui ont déjà fait des mandats, nous ont dit non, mais arrêtons de nous poser cette question-là. La plupart des hommes ne le font pas. Nous avons de l'expérience. Parce que nous avons une expérience de vie, déjà. On a des compétences. Et puis, ben, quand on ne connaît pas un sujet sur le bout des doigts, et ben, on aura des gens dans l'équipe, au sein des élus, mais aussi au sein des équipes municipales. Il y a des gens qui travaillent dans les communes et qui sont très compétents aussi. Et on n'est pas censé être expert de l'ensemble de tous les sujets que doivent porter la commune ou les différentes spécialités dans lesquelles on va exercer nos mandats. Et qu'il n'y avait pas de problème à un moment donné, si on avait une question d'un habitant auquel on ne savait pas répondre, il n'y avait pas de problème à dire eh ben, écoutez, je ne sais pas, je note votre question, je vais aller voir la personne qui aura la réponse, et promis, je reviens vers vous. Et effectivement, de revenir vers les personnes, ne pas faire de fausses promesses par rapport à ça, mais il faut croire un petit peu en nous-mêmes. Voilà, c'était, je pense, le point principal qui est ressorti.
Voilà, donc une déformation pour se rassurer, se dire qu'on peut y aller, qu'on est légitime et compétente. Merci à Aurélie pour son témoignage.
Alors Sandrine, vous êtes candidate au municipal à Marcenat. C'est une première pour vous. Vous aviez entendu parler là de cette formation ?
Absolument pas.
Bon, comme quoi elle n'a peut-être pas été communiquée à tout le monde. Votre situation à vous, elle n'est pas banale, puisque vous étiez auparavant secrétaire de mairie dans cette commune. Du coup, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? De quitter votre poste.
Alors, je suis secrétaire générale de mairie. C'est important parce que le poste de secrétaire de mairie est très féminisé aussi. Donc, c'est pas anodin si on a décidé à un moment donné de changer le nom de la fonction. Donc, qu'est-ce qui me motive, puisque je suis effectivement secrétaire générale de mairie, c'est à la fois d'avoir d'abord fait un mandat déjà à Marcenage. J'ai été élue. On est venu me chercher en 2014 pour être conseillère municipale, avec un sujet déjà tracé pour qu'est-ce que j'allais apporter en 2014 à la mairie de Marcenage. Eh bien, c'était ma fonction, c'est-à-dire que j'étais responsable de la communication. Donc, je pense qu'ils cherchaient quelqu'un qui puisse les accompagner, les aider en termes de communication et au niveau du bulletin municipal. Voilà. C'est une lourde tâche. J'ai fait le blog de la commune, j'ai géré le bulletin municipal pendant des années. Voilà, je suivais les événements. Donc, j'ai dû quitter pour des raisons personnelles en 2020. J'ai pas pu être réélue puisque j'ai dû changer de département pour des raisons personnelles. Et je suis revenue à Marcenage il y a quelques années. Et là, on m'a ouvert la porte de la mairie, mais cette fois-ci pour être secrétaire. Et je voudrais rebondir par rapport à cette histoire technique voilà, qui est souvent abordée. Est-ce que les femmes élues peuvent gérer des sujets techniques? Bien sûr, notre première adjointe s'occupe du bâtiment, s'occupe de la commission finances. Elle va arrêter, ça fait 31 ans qu'elle est élue. Elle gérait particulièrement des sujets techniques à Marcenage. Les secrétaires de mairie gèrent tous les jours des choses techniques. On gère l'urbanisme, on gère la voirie, on gère les élections. On ne se demande pas à notre niveau si on est capable de gérer ces sujets. Donc pourquoi se questionner pour les élus?
Finalement, la prise de décision, elle n'a pas été compliquée de non. Vous lancer en politique, de repartir en politique?
La vraie question a été, je suis une femme active, j'ai toujours travaillé à 100%. J'ai un plein temps à la mairie de Marcenage à 35 heures, j'ai une rémunération correcte. La question est, est-ce que je peux continuer dans cette voie-là en devenant élue avec les indemnités qui me sont proposées pour une commune de plus de 1000 habitants? Il a fallu que je fasse des calculs parce qu'on est très peu accompagné à ce sujet. Comment je vais cotiser mes trimestres, parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse une parenthèse dans ma vie pour être élue, même si ce n'est pas le choix. Hein. Le choix, c'est que j'ai envie de continuer à être au service des habitants et c'est ça mon leitmotiv. Mais quand même, il faut se questionner. Quand je vais arriver à l'âge de la retraite, je ne pourrais pas me dire que j'ai fait ces sacrifices personnels. Donc, les indemnités des communes de plus de 1000 habitants, qui devraient être revalorisées d'ailleurs qui ont été d'ailleurs revalorisées, vont nous permettre de cotiser, vont nous permettre de continuer, même si j'imagine bien compléter ce temps de maire par soit une activité, soit peut-être un autre engagement, mais parce que je pense que c'est bien aussi de pas vivre intégralement dans sa mairie, parce que la secrétaire générale me supportera plus au quotidien si je suis tout le temps dans ses pattes, parce que voilà.
Et cet aspect financier, il est intéressant, il est revenu dans des échanges que Joël et Michel ont pu avoir avec des femmes mères qu'on diffusera dans l'émission prochaine. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est abordé quand on vient vous rencontrer pour monter une liste? Est-ce que vous parlez de ça et est-ce que vous y pensez? À un moment donné, là, vous avez parlé, Christine, du fait que vous étiez à temps partiel. Du coup, est-ce que cette indemnité peut aussi compléter l'engagement sur le reste du temps partiel?
Alors, l'indemnité, elle concerne les gens qui sont... Enfin, le maire et les adjoints, donc les élus lambda, enfin, les conseillers municipaux n'ont pas d'indemnité. C'est vraiment du bénévolat. Mais oui, effectivement, ça, c'est une question qui se pose, l'aspect financier. Dans la commune dans laquelle j'habite, ce sont plutôt des personnes retraitées qui ont pris les fonctions d'adjoint et de maire. Et du coup, l'indemnité n'était pas forcément un sujet pour eux, puisqu'ils ont leur pleine retraite. Pour les adjoints actifs, au tout début du mandat, ça a été un vrai sujet quand même, de dire est-ce qu'on peut revaloriser un petit peu ce montant, parce que que ça demande un investissement relativement conséquent. Certains devaient s'absenter de leur travail, ça posait problème parfois avec les patrons, en fait, tout simplement, enfin, voilà, les responsables. Oui, la question elle a vraiment été posée de cette indemnité. Et là aussi, en fait, au-delà de l'indemnité, se pose la question pour les femmes comme pour les hommes, quand on a des enfants, qu'on a un conjoint aussi qui lui-même est mobilisé, est engagé dans d'autres choses, ben, comment on fait pour la garde des enfants? Ça entraîne des coûts. Pour aujourd'hui, avec la parentalité des couples qui peuvent être séparés, la monoparentalité, et en fait, ces familles-là, elles sont très nombreuses dans toutes les communes. Du coup, voilà, comment on fait pour pouvoir s'investir quand on gère tout seul ou une semaine sur deux, éventuellement, des enfants? Nous, on s'était arrangé, par exemple, pour organiser les conseils une semaine sur deux. Enfin, il y avait un parent qui était séparé pour que lui, qu'on puisse avoir les conseils la semaine où il avait passé ses enfants. Et puis, voilà, il faut peut-être réfléchir aussi à des systèmes de garde ou alors réfléchir aux horaires des réunions davantage pour accompagner, en fait, les gens qui voudraient s'investir. Parce que, de fait, il me semble que maire comme conseiller municipaux, la moyenne d'âge, elle est relativement élevée. Et quand on va chercher les futures conseillères et conseillers, ben, cette question, elle se pose. On s'est rendu compte spontanément qu'on disait « Ah, mais elle, c'est une très jeune mère de famille. Elle vient d'avoir un troisième enfant. » Voilà. On s'est bien gardé de prendre des décisions à la place des gens. On est allé voir celles et ceux qui semblaient vouloir pouvoir rentrer dans le conseil. Mais de fait, entre le travail et les enfants, on se retrouve avec des gens qui sont quand même relativement plus âgés et qui sont du coup plus dans la vie active.
Justement, là, vous êtes en train de préparer les municipales à venir. Comment ça se passe de votre côté pour monter ces listes? Sandrine, c'est tout prêt?
Écoutez, on est prêt. On est 17, 15 plus 2. On a une majorité féminine, puisque je me présenterai en tête de liste. Donc nous serons 8 femmes et 7 hommes, une première pour Marciana. En ce qui nous concerne, de notre côté, par rapport à ce que vous disiez, nous allons nous séparer de trois, enfin, en tout cas, il y a 3 adjoints actuels qui arrêtent. Donc il y a 2/3 de la liste actuelle qui repart avec moi, plutôt des jeunes et des actifs. Ce qui fait qu'on a quand même commencé à réfléchir un petit peu justement au rôle d'adjoint, puisque ça se prépare peut-être plus justement quand ce ne sont pas des retraités. La moyenne d'âge de la liste est de 50 ans. A priori, les adjoints qui m'accompagneraient si je suis élue seront plutôt jeunes et plutôt actifs. Donc on a peut-être imaginé, on a le droit à 4 adjoints, sans venir augmenter l'enveloppe budgétaire, mais plutôt diviser par 4 et choisir 4 adjoints actifs pour remplacer 3 retraités. Voilà. Mais je voudrais revenir sur les indemnités. Les indemnités, c'est une enveloppe globale. Il y a une partie qui est attribué au maire, donc qui s'est voté en conseil municipal. Le reste de l'enveloppe peut tout à fait être distribué à l'ensemble du conseil municipal. Il y a certaines mairies qui choisissent de rémunérer l'ensemble des membres du conseil. Et on peut différencier les enveloppes au niveau des adjoints, ce qui veut dire qu'on peut avoir 4 adjoints rémunérés de manière différente en fonction de l'investissement, de la présence, des délégations. Voilà.
Et sur la question des femmes, 8 femmes qui vous rejoignent, est-ce qu'il y a eu des nouvelles entrées et comment vous les avez convaincues?
Alors oui, puisque actuellement, le conseil municipal est majoritairement masculin, donc ce qui fait que dans les personnes qui sont reparties, il y avait essentiellement les hommes. Très peu de femmes arrêtent, mais quand même, nous avons 2 adjointes qui arrêtent et puis deux conseillères. Donc effectivement, je suis partie chercher plutôt des femmes. Je ne sais pas si c'est de la chance, je pense que c'est parce que je suis une femme, peut-être que ça a été plus facile pour moi d'aller chercher d'autres femmes, mais j'ai pas eu de mal du tout à trouver des jeunes femmes et des femmes retraitées pour m'accompagner dans l'aventure. Donc, est-ce qu'elles ont confiance? Est-ce qu'elles pensent qu'elles vont peut-être trouver plus facilement leur place au sein d'un conseil parce que le chef d'orchestre est une femme aussi? Est-ce qu'elles vont avoir peut-être plus de facilité à s'exprimer, prendre la parole, trouver leur légitimité au sein du conseil? En tant que secrétaire de mairie aujourd'hui, j'assiste parfois à des prises de parole timides, parfois au niveau des femmes. Moi, je n'avais pas ce problème quand j'étais au conseil municipal, peut-être parce que j'avais eu l'habitude de travailler dans un comité de direction où il n'y avait que des hommes. Il avait fallu déjà avant que je fasse ma place, donc je n'avais pas senti ce problème-là.
Et est-ce que l'une et l'autre, dans vos réflexions, il y a justement l'idée de travailler sur ça? Comment on fait en sorte que la parole soit bien répartie entre les hommes et les femmes? Comment peut-être on va amener ces femmes à se former à un moment donné pour pouvoir s'exprimer dans le conseil municipal? Parce qu'on l'entend ça dans l'interview du maire actuel de Marcenat, Guy Antoinet, il le dit, hein, les messieurs, quand les dames sont en train de parler, ils ne les écoutent pas forcément. Du coup, est-ce que ça fait partie aussi d'une réflexion qui peut se faire là en amont quand on constitue la liste, ou est-ce que ça arrivera après?
Alors, j'ai une petite technique que je souhaite mettre en place de la même manière si je suis élue à Marcenat, c'est que ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, il y a normalement une règle du placement au conseil municipal. C'est-à-dire que le maire préside, est entouré de ses adjoints, et normalement, les conseillers municipaux sont placés par ordre de liste au sein du conseil, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas sa place au conseil municipal. Donc ce qui veut dire que si au premier conseil municipal, les femmes sont déjà placées de manière paritaire, un homme, une femme, un homme, une femme, et pas ensemble, déjà on se sentira peut-être moins influencé. On sent au sein du conseil que parfois, sur les votes, on peut sentir de l'influence. Voilà. Là, on ne s'installe plus en fonction de ses affinités, mais vraiment en fonction de la liste qui a été établie au départ.
Christine, dans votre commune, ça...
Pour nous, ce n'était pas vraiment un sujet, en fait. on est avec un maire et un premier adjoint qui avait vraiment cette volonté que tout le monde, homme comme femme, trouve sa place. Donc le placement n'est pas un sujet, on se place comme on arrive, à côté de qui on veut, homme ou femme, bien sûr. Et ensuite, ce qui a été surtout pratiqué, c'est des tours de parole. Donc tout le monde, et ça s'est mis en place très vite, en fait. Sur les sujets qui sont importants, mais aussi comme sur certains sujets plus légers, le maire ou l'adjoint tient à ce que tout le monde s'exprime les uns après les autres. Donc rapidement, on a senti que la voix de chacun comptait. Et tout le monde a trouvé ça, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a pu trouver sa place sur différents dossiers, dans différents aspects de cette vie de la commune. Donc moi, je n'ai pas le sentiment en tant que femme d'avoir été moins entendue, ou que pour mes camarades élus, c'était aussi un enjeu, en fait. Donc mais ça, je pense que ça vient vraiment de cette volonté du maire et des adjoints, voilà, de fonctionner comme ça et que tout le monde puisse trouver sa place.
On a vu dans le papier historique que Michel a présenté en début d'émission, la mise en place de la loi sur la parité a quand même permis d'augmenter les statistiques du nombre de femmes maires. Alors, ce n'est pas encore énorme, hein. A priori, là, sur 2025-22, on est à 20%, quoi. C'est pas beaucoup, hein, de femmes maires sur tout le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette loi parité? Est-ce que concrètement, vous pensez que ça change quelque chose quand même, que c'est bien qu'elle soit en place et qu'on l'impose là aux petites communes?
Moi, vraiment, je suis passée un peu par toutes les, par plein d'émotions sur, enfin, plein d'avis sur cette question-là. À un moment, quand j'ai vu comme c'était compliqué pour nous, en tout cas, de trouver des femmes, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée, voilà, de contraindre les gens à aller là où ils voulaient pas forcément aller, et puis que pour certaines communes, ça allait vraiment être une vraie problématique de trouver ces femmes. Enfin, on le voit autour de nous, parfois, c'est vraiment compliqué. Et puis après, je me suis dit, maintenant, en fait, on travaille sur la durée pour faire changer les choses. Je crois que ça prend du temps, et que justement, de dire, en fait, il faut prendre ses places, il faut y aller, c'est plutôt une bonne chose. Et puis on travaille, voilà, dans le temps, on travaille aussi sur les générations. Moi, à un moment, je me suis dit, en tant que femme, en tant que mère, je montre à mes enfants, à mes nièces, aux gens qui sont autour de moi que je fais partie de ce conseil municipal, que j'y suis et que voilà, ça se passe bien, qu'on peut faire beaucoup de choses. Et donc, je trouve que cet exemple-là, il peut être très inspirant. Le maire, en fait, lui-même avait son père qui était maire sur plusieurs mandats. Et donc, il parlait, en fait, justement, de cette culture qu'il y avait à la maison, de voir son père porter la vie du village, s'investir dans cet espace-là. Et donc, je pense que oui, c'est important que, finalement, nous, les femmes, pour le moment, on se sente parfois un peu contraintes d'y aller. Enfin, le mot contraint est un peu fort, mais en tout cas, vraiment fortement invitées à aller dans des espaces dans lesquels on ne se sent pas forcément... on a dit tout à l'heure, légitime. Et donc, finalement, on y va et on peut inspirer plein d'autres personnes à côté de nous.
Sandrine, sur cette loi ?
Je me suis questionnée, effectivement, par rapport aux communes qui avaient de moins de 1000 habitants. C'est vrai que lorsqu'on a un conseiller municipal qui fonctionne bien, avec des gens compétents, hommes ou femmes, peu importe, être obligé en tant que maire, à un moment donné, de faire des choix, c'est-à-dire de dire à une partie de son équipe qu'on va être obligé de se séparer alors que ça se passe très bien pour remplacer ces personnes par des femmes. Finalement, on peut se dire tout de suite pourquoi, enfin, voilà. Bien sûr que quand on voit qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces quotas que les femmes ont pu prendre leur place dans les conseils municipaux, on sent bien que c'est important. Bon, j'ai pas de leçon à donner à personne, mais je me suis dit peut-être qu'on aurait pu laisser un peu de temps, c'est-à-dire imposer les quotas de manière progressive. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, vous entrez une partie cette fois sur ce mandat, et dans 6 ans, on essaye d'arriver à la parité. Ça aurait peut-être été moins dur pour certains maires. Ouais.
Le maire sortant de Marsonnat, qu'on a entendu dans l'émission, il dit, lui, qu'une femme sera plus à même de gérer la commune qu'un homme. Vous en pensez quoi ?
Je pense que Guy Antoinet, actuellement maire de Marsonnat, a toujours laissé la place aux femmes. Et donc, peut-être quand il dit qu'une femme serait plus à même de gérer, je ne sais pas. Je sais qu'il s'est très, très bien entendu avec Michel Roux, qui a été élu maire, et il a été son premier adjoint. Donc, je pense que c'est ça qu'il a en tête. Mais. Ouais, non, je ne sais pas si une femme sera plus à même. En tout cas, ce qui est important, je pense, c'est surtout qu'il faut être très motivé. Il faut quand même être très dévoué et avoir un grand sens du service pour se lancer.
Alors, les femmes mères que nous avons rencontrées disent aussi qu'être élue, c'est être sur la première ligne. On va voir le maire quand on a un problème. Et on en parlait tout à l'heure, y compris le 31 décembre, n'est-ce pas ? Ces dernières années, beaucoup de maires ont démissionné. C'est ce qu'on a beaucoup entendu. Quel regard portez-vous là-dessus ?
Sandrine, peut-être ?
Alors... en tant que conseillère municipale, si je pars de là, j'avoue que j'ai jamais été particulièrement sursollicitée par les administrés. Et puis, ce qui m'a rassurée, c'est les 2 ans et demi que je viens de passer derrière la banque du secrétariat de mairie. Je rencontre uniquement des Marsonnais qui viennent chercher des informations, qui ont besoin d'aide, de comprendre. Ils viennent me voir avec beaucoup de bienveillance. Ça m'a énormément rassurée par rapport au rôle de maire. C'est-à-dire que je vois aussi le maire fonctionner au quotidien. Donc pour moi, c'est pas une inquiétude. Je sais que j'aurai des problèmes à régler, des décisions à prendre, mais je sens la bienveillance quand même des administrés quand on est là pour les accompagner. Donc non, c'est pas un sujet pour moi.
Christine, de votre côté, est-ce que c'est...
Moi, je comprends qu'on puisse démissionner de ses fonctions de maire. Je n'avais pas conscience, en fait, de tout le travail. Tu as parlé dévouement, de tout le travail, justement, qui était fait par le maire en particulier, ou les premiers adjoints, dans beaucoup d'aspects de la vie. C'est beaucoup de travail. Et aussi, y a quand même un peu de défiance aussi des administrés, quand même, sur le politique aujourd'hui. Et puis, y a des prises à partie. Les gens, c'est personnel, je trouve que les gens se permettent parfois d'appeler le maire pour des choses qui sont... qui ont pas lieu d'être, en fait, sur des histoires, des petites histoires de voisinage ou voilà, une histoire de parking, une histoire de chien, une histoire de choses. Et en fait, ça, c'est peut-être propre aux petites communes où tout le monde connaît le maire, où beaucoup de gens ont le numéro de téléphone du maire. Et donc, il peut être appelé sur plein de petites choses. Donc, je sais aussi que les agressions sur les élus ont augmenté. Donc, je comprends que certains se retirent un peu de cette vie publique pour se préserver et que c'est un travail vraiment... c'est assez colossal, en fait, le travail de maire sur des petites communes. Mais élu, effectivement, c'est ce que tu disais, on est quand même beaucoup moins sollicité et on n'est pas en première ligne. C'est beaucoup plus simple.
Il y a une différence, j'imagine aussi en fonction des communes, hein, les petites communes et les plus grosses communes, peut-être qu'on a un rapport de proximité sur les petites communes avec nos habitants qui permet de désamorcer les conflits. Excusez-moi, j'ai oublié ce que je voulais. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit. J'ai oublié
sur les numéros de téléphone.
Ah oui, voilà, exactement.
Pas donner son numéro de téléphone.
Bravo.
Ou alors, faut changer de numéro.
Bravo, vous aviez.
Quand on devient maire, on change de numéro. Peut-être.
Non, on prend un numéro d'astreinte. C'est-à-dire que je pense qu'un seul numéro d'astreinte pour l'ensemble de la mairie, c'est très bien. Je suis pas sûre que le maire doive donner son numéro personnel à l'ensemble des habitants. Voilà.
Il ne le donne pas, ils l'ont, en fait.
Ouais, en fait, je pense qu'il faut qu'ils aient un point d'entrée qui soit un tout petit peu différent, ne serait-ce que pour que nous-mêmes, on puisse et ça, prendre aussi un peu de recul par moment et laisser la place à nos adjoints qui seront là pour ça.
Et une des personnes qu'on a interrogées là pour la préparation de cette émission nous signalait qu'il y a une nouvelle loi, la loi du 22 décembre 2025 sur le nouveau statut d'élu local. Qui a été prise et avec un certain nombre de mesures comme la revalorisation des indemnités pour les maires. On l'a vu, c'est une question cruciale, enfin pour les maires, les adjoints et l'ensemble de l'équipe municipale. Pour les petites communes, une meilleure prise en charge de certains frais de transport, la prise en charge aussi améliorée des frais de garde d'enfants et aussi des frais d'assistance aux personnes âgées ou handicapées dont s'occupent les personnes élues. Il y avait aussi une autre mesure sur, ça rejoint ce que vous évoquiez aussi sur la possibilité, enfin le développement de formes d'agression aussi, hein, d'élus, c'est-à-dire que dans la loi, il y a aussi une mesure sur l'extension de la protection fonctionnelle, donc cette protection que l'État doit à ses agents en cas de menace, d'agression, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça va changer les choses, cette loi ?
Changer quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, ça montre qu'il y a une prise de conscience. Donc ça, c'est forcément positif. Et puis, oui, ça peut revaloriser des indemnités ou prendre en compte, comme on disait tout à l'heure, cette question financière ou cette question d'organisation pour des gardes d'enfants ou des personnes handicapées. Oui, c'est forcément une bonne chose, en fait. Après, on verra dans le temps si le nœud du problème est là ou si ça va vraiment changer les choses. Mais oui, c'est toujours positif.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Et si vous deviez adresser un message à des femmes là, qui n'oseraient pas encore se lancer, vous leur diriez quoi ?
Bah justement, de mettre de côté cette question de légitimité. On est légitime, on est capable de s'emparer de n'importe quel sujet politique, d'affaires, de la cité. Et puis après, à titre individuel, moi j'étais très reconnaissante d'avoir pu rentrer dans cette aventure-là. On découvre la commune sous des aspects qu'on ne connaît pas, on rencontre énormément de personnes... c'est vraiment une aventure humaine que moi j'ai trouvée passionnante.
Sandrine ?
J'ai trouvé ça passionnant puisque finalement je vais m'investir encore plus. Oui, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup. Une commune, on accompagne les habitants de la reconnaissance des naissances, c'est-à-dire tout début, la scolarité, les mariages, les Pax, l'urbanisme, la première maison construite, les problèmes de voirie. je trouve que c'est tellement riche que ça serait quand même bien dommage que de pas s'engager. Voilà.
Eh bien, merci à toutes les deux. Merci Sandrine, candidate à Marsonna. Merci Christine, candidate dans une autre commune de l'Ain. Et bonne campagne.
Merci. Merci.
Ça gronde dans Paris, mais que veulent donc ces furies, ces viragos, ces sauvageonnes? font presque peur à leur mari, mais de leur discours ils sourient. Dans les clubs, elles s'époumonnent. Voyez un peu ces effrontés qui réclament l'égalité des crèches et même des écoles. Et la pilule, pourquoi pas la grève et le 13e mois. Elles ont perdu la boussole. Elles sont des prénoms très doux pourtant et des éclats de rire. Tant de désirs fous dans ce printemps, lutter, apprendre à lire. Victorine, Désirée, Angelina, Nathalie, Adèle, Charlotte, André, Amélie. Victorine, Désirée, Angelina, Nathalie, Adèle, Charlotte, André, Amélie. Tout peut changer, elles y croient, elles signent avec une croix. Elles qui avaient peur des souris, elles épatent leur mari. Nuit et jour, elles montent la garde. Elles font même le coup de feu, cause et console de leur mieux. Les plaies vivent des barricades. Mais l'histoire finit dans le sang d'un coup de botte des puissants. Dans le cul du temps des cerises, elles déposent au monde piété leurs beaux rêves d'égalité. Reprennent leur besogne grise. Elles ont des prénoms très doux pourtant et des éclats de rire. Tant de désirs fous dans ce printemps, chanter, apprendre à lire. Victorine, Désirée, Angelina, Nathalie, Adèle, Charlotte, André, Amélie. Victorine, Désirée, Angelina, Nathalie, Adèle, Charlotte, André, Amélie. Oui, tout changera pour de bon, elle signe avec leur vrai nom.
Merci Michel Bernard pour le nom de toutes ces anonymes qui font qu'aujourd'hui, eh bien, les femmes rentrent dans les conseils municipaux. Donc, il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B, une émission autour des femmes en politique.
Et on l'a entendu au travers de l'émission, l'engagement des femmes en politique ou dans les mouvements sociaux est présent depuis des siècles. Peut-être qu'il est moins perceptible, moins visible, car comme toujours, invisibilisé, oublié. Alors, au travers de cette émission, on a quand même entendu que la façon de s'engager, de porter les dossiers pouvait être parfois différente entre les hommes et les femmes. Qu'en dit Ludivine Bantini, vous vous souvenez, l'historienne qu'on a entendue au début de l'émission? Je rappelle qu'elle a remonté les époques pour en savoir plus sur l'engagement des femmes.
Déjà, il y a une différence fondamentale, précisément en raison du sexisme structurel et du patriarcat qui est systémique pendant toutes ces décennies. Donc forcément, elles doivent trouver des moyens de le contourner, de le briser aussi, de briser cette domination. Alors, elles ont des tactiques différentes, variées. Par exemple, le premier texte de 1789 signé par des femmes, avant même le début du mouvement révolutionnaire, c'est le 1er janvier 1789, des femmes qui revendiquent auprès du roi le droit de recevoir une éducation. Et elles vont dire, oui, en fait, c'est vraiment, ne vous inquiétez pas, nous ne voulons pas usurper l'autorité des hommes, etc. Mais nous voulons une éducation, comme ça nous pourrons à notre tour éduquer nos fils. Mais on ne peut pas savoir si ce n'était pas tactique de leur part pour pouvoir justement avoir la satisfaction sur cette revendication. Donc en fait, on peut considérer qu'il y a des femmes, des féministes plus tard, qui sont différentialistes, qui vont dire, ben voilà, les femmes, elles vont apporter leurs différences. Elles ont des vertus supposément singulières, spécifiques, et donc c'est bien si les femmes ont des droits, c'est bien si les femmes peuvent participer à la vie de la cité, si elles ont la citoyenneté, etc., parce qu'elles vont avoir cet apport singulier pour la vie de la cité, sur les enfants, sur le soin, sur la maladie, enfin, bref, pour combattre des fléaux sociaux, des fléaux médicaux, etc. Et puis certaines sont universalistes, disent « nous, on ne veut pas entendre parler de ça, on veut vraiment une égalité qui ne soit pas que formelle, etc. » Donc il y a cette dimension, avec plein de divergences du coup entre elles, on ne peut pas parler d'une sorte d'essence des luttes de femmes comme si elles étaient monochromes en fait. Et par ailleurs, souvent, elles ont de l'humour. Enfin, il y a de l'humour, il y a de la créativité, parce que précisément, comme elles sont particulièrement réprimées, moquées, raillées, dénigrées, discréditées, etc., et qu'on les, à chaque fois, si on prend un vocabulaire d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'elles sont dégenrées ou mégenrées. C'est-à-dire que si elles se battent comme ça, y compris parfois des armes à la main, même les hommes, disons de gauche, etc., engagés, ne vont que très mal accepter cette situation et donc vont dire mais en fait c'est pas des vraies femmes, c'est des femmes hommes, c'est des viragos, etc. Donc elles veulent aussi casser cette image, donc soit s'en moquer, faire ce qu'on appelle de, c'est un gros mot hein, mais c'est de l'antiparastase, c'est-à-dire l'antiparastase ça consiste à prendre un mot qui est une insulte, une injure et puis le retourner en le réappropriant avec fierté, avec dignité. Et par exemple le mot féministe, c'est exactement ça, c'est qu'au départ c'était un mot dénigrant et qui était homophobe, on va dire, parce qu'en fait, il voulait plutôt désigner, dans certains traités médicaux, des hommes qui, supposément, d'après les critères très hétéronormés de l'époque, n'étaient supposément pas assez virils, donc dans un masculinisme dont on parlait déjà. Le terme masculiniste apparaît vraiment à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, par exemple, ce terme-là, Hubertine Auclert, une des grandes féministes et socialistes et syndicalistes de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, en 1882, elle va le reprendre, elle va dire « Ah bon, le féministe, vous nous dénigrez, eh bien nous, on va reprendre ce mot et on va en faire un objet de fierté. » Donc elles ont aussi cette dimension-là, de à la fois du jeu, de la créativité, de l'humour, de l'insolence, de cette provocation, parfois rebelle, etc., puisqu'elles sont par essence subversives. Mais d'un autre côté, elles ont aussi beaucoup de courage, et donc, notamment parce qu'elles doivent s'imposer en tant que telles.
Alors, vous avez noté humour et créativité, des mots à retenir pour organiser la lutte.
Selon vous, Marie Tessier, qu'est-ce qui devrait être fait ?
Mais il faut se retrousser les manches. Voilà. Mais il faut y aller vraiment. C'est plus le moment de faire de la réelle politique.
Bonjour Marie, vous allez bien ?
Oui, oui. Et vous, monsieur le président ?
Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères.
Pardon ?
Des touristes français ont été pris en otage au Sahel.
Ils sont maintenant détenus là.
Bref, c'est la grosse merde. Je prends. On va négocier.
Rien ne doit filtrer hors de cette pièce, qu'on ne sache même pas entre nous qu'on sait.
Vos otages sont nos otages.
Terroriste, c'est un métier. Là, service financier. Et là, planification des enlèvements. Si vous les voulez tous, c'est 15 millions. Je veux bien descendre à 12.
Ça fait chier, ces otages. Hein? La situation, c'est chiant. On est prêt à leur livrer la rançon dès ce soir.
Putain! C'est français, c'est français!
Vous êtes en haut des recherches Google avec comme mot-clé associé connasse, mère Teresa, alcoolique.
Je suis la ministre, j'assume.
En même temps, c'est un petit peu de ta faute, hein.
On ne peut pas se permettre un deuxième échec.
Vous allez pas nous laisser tomber. Je dois trouver une solution.
La libération a raté, alors il s'est passé quoi?
Les dysfonctionnements viennent du Sahel, pas de la France.
Mais maintenant, tout est sous contrôle.
Ah voilà, on l'a dit.
Et nos recommandations culturelles du mois. Vous venez d'entendre la bande-annonce de la série Sous contrôle. Pour rester dans l'humour, c'est une série avec Léa Drucker, où comment une directrice d'ONG se retrouve propulsée ministre des Affaires étrangères et doit, entre autres, gérer une prise d'otage au Sahel. Alors, rire autour de la politique, c'est pas fréquent en ce moment, donc autant en profiter. C'est une série qu'on peut retrouver en DVD dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Et puis, en plus sérieux, il y a la série Borgen, ou roman en 4 saisons, on découvre le rôle de première ministre au Danemark. Et puis, dans la 4e saison, la première ministre va se rendre au Groenland. Donc, bon, ça peut aussi servir en savoir plus sur ce territoire.
Et dans les propositions un peu sérieuses, une proposition de lecture, c'est le petit livre La Petite République de Saillant, une expérience de démocratie participative. Le texte est paru en 2020. C'est un essai de Maude Dugrand, journaliste à l'UMA pendant plusieurs années et qui elle-même est originaire de Saillant. C'est un livre que j'ai lu avec le questionnement qui nous occupait aujourd'hui. C'est est-ce que la démocratie participative expérimentée à Saillant a permis aux femmes d'avoir une plus grande place ? On peut rappeler que Saillant, c'est cette commune de la Drôme de 1300 habitants environ qui s'est retrouvée sous les feux des projecteurs médiatiques pour avoir expérimenté entre 2014 et 2020 un renouvellement démocratique assez radical avec l'élection en 2014 d'une liste de débutants et débutantes en politique qui a tenté de faire de la politique autrement autour de 3 principes clés, la collégialité, la participation et la transparence. Donc, je le disais, cette question en toile de fond de ma lecture, est-ce que ce type d'organisation plus horizontale favorise l'engagement, la participation des femmes ? Ce qu'on peut dire rapidement, mais je vais vous laisser lire le livre, c'est qu'à Saillant, les femmes ont été très nombreuses à s'investir pendant cette période. Qu'on avait d'ailleurs une direction bicéphale avec un maire et son adjointe qui prenaient les décisions, toutes les décisions et géraient tous les dossiers ensemble. Et par ailleurs, au fil de ma lecture, j'ai trouvé quelques leçons à tirer peut-être, de l'expérience. Notamment, par exemple, avec une habitante qui souligne que le cadre de participation mis en place à Saillant a permis que ce ne soit pas que les grandes gueules qui s'expriment. Je la cite, on l'évoquait aussi tout à l'heure, la question du cadre de prise de parole et de son importance. L'autrice compare par ailleurs l'expérience de Saillant à une sorte d'école de la citoyenneté qui nécessite de sortir de la culture du conflit et de cette image selon laquelle la politique doit être virile et consiste à sauter à la gorge de l'adversaire. Voilà, et il semblerait aussi par ailleurs que un des outils qu'ils ont utilisé, c'est le tirage au sort, notamment le tirage au sort pour le vote du nouveau PLU, projet local d'urbanisme, j'avais un doute, qui a permis notamment la participation de personnes qui ne se seraient pas investies autrement. Une habitante souligne « Sans le tirage au sort, je n'y serais jamais allée ». Voilà, mais en même temps, il y a ce constat très fort tout au fil du texte. La démocratie participative prend du temps, beaucoup, 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 beaucoup de temps. L'autrice souligne « Le temps d'engagement des élus est ici énorme. Le bénévolat trouve ici ses limites quand on a un métier et 3 enfants à élever. »
Et puis à noter ce samedi 17 janvier à 18h30 à la mairie de Tréfort à Val-Revermont, salle des remparts, il y a une soirée ciné-échange sur le thème de la démocratie participative avec le film La République de Saillant, un documentaire de Dorine Brun et Sarah Jacquet.
Et puis une fiction, le film Les promesses de Thomas Krutoff, sorti en 2022. C'est une mère qui est à la tête d'une commune dans le 93. La ville n'est pas nommée, mais le scénario pourrait se dérouler dans bon nombre de cités et de grandes cités vieillissantes. Dans le film, il s'agit des Bernardins. Plus d'ascenseurs, des canalisations qui lâchent partout, les habitants qui refusent de payer les charges tant que la cité n'est pas entretenue. Des marchands de sommeil qui remplissent les appartements, se remplissent aussi les poches en faisant payer en liquide. Une promesse. La maire de la ville annonce que pour son dernier mandat, la cité serait entièrement rénovée. Pour ça, il faut obtenir 63 millions d'euros de subventions publiques de la part du Grand Paris. Hein, une bricole. On voit dans ce film Clémence Colombet, la mère de la ville, qui est incarnée par Isabelle Huppert, et son proche conseil, Azid, qui est incarné lui par Reda Kateb, qui se démène pour mener à bien ce projet. Pas facile de naviguer en même temps chez les pauvres et chez les riches, se faire entendre, gagner la confiance des uns et puis des autres. Et puis une autre promesse, celle de ne pas se représenter. Bon, je vous laisse découvrir la suite.
Eh bien, merci. Merci à nouveau à nos invités. Merci à tous les maires qui ont répondu à nos questions. Merci à vous, chers collègues d'émission. Et merci à Jimmy à la technique. On se retrouve le mois prochain avec la suite de nos questionnements. Et si les femmes s'engageaient différemment? Et du coup, comment? En attendant, prenez soin de vous. On se quitte en musique avec une chanson choisie par Andrea. À bientôt.
À bientôt, Andrea.
peine en coulisses libres, me voilà.